You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a Swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.
Chapitre 9 de La Mare au Diable. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezoa. La Mare au Diable de George Sand. Chapitre 9. La prière du soir. Petit Pierre s'était soulevé et regardait autour de lui d'un air pensif.
Ah, il n'en fait jamais d'autre quand il entend manger, celui-là, dit Germain. Le bruit du canon ne le réveillerait pas, mais quand on remue les mâchoires auprès de lui, il ouvre les yeux tout de suite.
« Vous avez dû être comme ça à son âge ?» dit la petite Marie avec un sourire malin. « Allons, mon petit Pierre, tu cherches ton ciel de lit ? Il est fait de verdure ce soir, mon enfant. Mais ton père n'en soupe pas moins. Veux-tu souper avec lui ?
Je n'ai pas mangé ta part, je me doutais bien que tu la réclamerais. « Marie, je veux que tu manges !» s'écria le laboureur. « Je ne mangerai plus. » Je suis un vorace, un grossier. Toi, tu te prives pour nous, ce n'est pas juste, j'en ai honte. Tiens, ça m'ôte la faim. Je ne veux pas que mon fils soupe si tu ne soupes pas.
Laissez-nous tranquille, répondit la petite Marie. Vous n'avez pas la clé de nos appétits. Le mien est fermé aujourd'hui, mais celui de votre Pierre est ouvert comme celui d'un petit loup. Tenez, voyez comme il s'y prend. Oh, ce sera aussi un rude laboureur. En effet, petit Pierre montra bientôt de qui il était fils, et à peine éveillé, ne comprenant ni où il était, ni comment il y était venu, il se mit à dévorer. Puis, quand il n'eut plus faim, se trouvant excité comme il arrive aux enfants qui rompent leurs habitudes, il eut plus d'esprit, plus de curiosité et plus de raisonnement qu'à l'ordinaire. Il se fit expliquer où il était, et quand il sut que c'était au milieu d'un bois, il eut un peu peur.
« Y a-t-il des méchantes bêtes dans ce bois ? »
demanda-t-il à son père. « Non, fit le père, il n'y en a point, ne crains rien. »
« Tu as donc menti quand tu m'as dit que si j'allais avec toi dans les grands bois, les loups m'emporteraient ?»«
Voyez-vous ce raisonneur ?» dit Germain embarrassé.
« Il a raison, » reprit la petite Marie. « Vous lui avez dit cela. Il a bonne mémoire, il s'en souvient. Mais apprends, petit Pierre, que ton père ne mange jamais. Nous avons passé les grands bois pendant que tu dormais, et nous sommes à présent dans les petits bois où il n'y a pas de méchantes bêtes. »«
Les petits bois sont-ils bien loin des grands ?»«
Assez loin. » D'ailleurs, les loups ne sortent pas des grands bois, et puis, s'il en venait ici, ton père les tuerait.
« Et toi aussi, petite Marie ?»«
Et nous aussi, car tu nous aiderais bien, mon petit Pierre. Tu n'as pas peur, toi ? Tu taperais bien dessus ?»«
Oui, oui !» dit l'enfant enorgueilli en prenant une pose héroïque. « Nous les tuerions !»«
Il n'y a personne comme toi pour parler aux enfants, » dit Germain à la petite Marie, « et pour leur faire entendre raison. » Il est vrai qu'il n'y a pas longtemps que tu étais toi-même un petit enfant, et tu te souviens de ce que te disait ta mère.
Je crois bien que plus on est jeune, mieux on s'entend avec ceux qui le sont. J'ai grand peur qu'une femme de 30 ans, qui ne sait pas encore ce que c'est que d'être mère, n'apprenne avec peine à babiller et à raisonner avec des marmots.
Pourquoi donc pas, Germain ? Je ne sais pourquoi vous avez une mauvaise idée touchant cette femme. Vous en reviendrez.
Au diable, la femme ! Dit Germain. Je voudrais en être revenu pour n'y plus retourner. « Qu'ai-je besoin d'une femme que je ne connais pas ?»«
Mon petit père, » dit l'enfant, « pourquoi donc est-ce que tu parles toujours de ta femme aujourd'hui, puisqu'elle est morte ?»«
Hélas, tu ne l'as donc pas oublié, toi, ta pauvre chère mère ?»«
Non, puisque je l'ai vue mettre dans une belle boîte de bois blanc, et que ma grand-mère m'a conduit auprès pour l'embrasser et lui dire adieu. Elle était toute blanche et toute froide, et tous les soirs ma tante me fait prier le bon Dieu pour qu'elle aille se réchauffer avec lui dans le ciel. Crois-tu qu'elle y soit à présent ?»
« Je l'espère, mon enfant.
mais il faut toujours prier. Ça fait voir à ta mère que tu l'aimes.
Je vais dire ma prière, reprit l'enfant. Je n'ai pas pensé à la dire ce soir. Mais je ne peux pas la dire tout seul. J'en oublie toujours un peu. Il faut que la petite Marie m'aide.
Oui, mon Pierre, je vais t'aider, dit la jeune fille. Viens là te mettre à genoux sur moi. L'enfant s'agenouilla sur la jupe de la jeune fille, joignit ses petites mains et se mit à réciter sa prière. D'abord avec une attention et une ferveur, car il savait très bien le commencement. Puis avec plus de lenteur et d'hésitation. Et enfin, répétant mot à mot ce que lui dictait la petite Marie, lorsqu'il arriva à cet endroit de son oraison où le sommeil le gagnant chaque soir, il n'avait jamais pu l'apprendre jusqu'au bout. Cette fois encore, le travail de l'attention et la monotonie de son propre accent produisirent leur effet accoutumé. Il ne prononça plus qu'avec effort les dernières syllabes, et encore, après se les être fait répéter trois fois. Sa tête s'appesantit et se pencha sur la poitrine de Marie. Ses mains se détendirent, se séparèrent et retombèrent ouvertes sur ses genoux. À la lueur du feu du bivouac, Germain regarda son petit ange assoupi sur le cœur de la jeune fille qui, le soutenant dans ses bras et réchauffant ses cheveux blonds de sa pure haleine, s'était laissé aller aussi à une rêverie pieuse et priait mentalement pour l'âme de Catherine. Germain fut attendri, chercha ce qu'il pourrait dire à la petite Marie pour lui exprimer ce qu'elle lui inspirait d'estime et de reconnaissance, mais ne trouva rien qui pût rendre sa pensée. Il s'approcha d'elle pour embrasser son fils, qu'elle tenait toujours pressé contre son sein, et il eut peine à détacher ses lèvres du front du petit Pierre.
« Vous l'embrassez trop fort, » lui dit Marie en repoussant doucement la tête du laboureur. « Vous allez le réveiller. Laissez-moi le recoucher, puisque le voilà reparti pour les rêves du paradis. »
L'enfant se laissa coucher, mais en s'étendant sur la peau de chèvre du bas, il demanda s'il était sur la grise. Puis, ouvrant ses grands yeux bleus et les tenant fixés vers les branches pendant une minute, il parut rêver tout éveillé, ou être frappé d'une idée qui avait glissé dans son esprit durant le jour et qui s'y formulait à l'approche du sommeil.
« Mon petit père, » dit-il, « si tu veux me donner une autre mère, je veux que ce soit la petite Marie. »
Et sans attendre de réponse, il ferma les yeux et s'endormit. Fin du chapitre 9. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 10 de La Mare au Diable. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezoie. La Mare au Diable de George Sand. Chapitre 10. Malgré le froid. La petite Marie ne parut pas faire d'autre attention aux paroles bizarres de l'enfant que de les regarder comme une parole d'amitié. Elle l'enveloppa avec soin, ranima le feu, et, comme le brouillard endormi sur la mare voisine ne paraissait nullement près de s'éclaircir, elle conseilla à Germain de s'arranger auprès du feu pour faire un somme.
« Je vois que cela vous vient déjà, » lui dit-elle, « car vous ne dites plus mot, et vous regardez la braise comme votre petit faisait tout à l'heure. Allons, dormez, je veillerai à l'enfant et à vous. »«
C'est toi qui dormiras, » répondit le laboureur, « et moi je vous garderai tous les deux, car jamais je n'ai eu moins envie de dormir. » J'ai 50 idées dans la tête.
50, c'est beaucoup, dit la fillette avec une intention un peu moqueuse. Il y a tant de gens qui seraient heureux d'en avoir une.
Eh bien, si je ne suis pas capable d'en avoir 50, j'en ai du moins une qui ne me lâche pas depuis une heure.
Et je vais vous la dire, ainsi que celle que vous aviez auparavant.
Eh bien oui, dis-la si tu la devines, Marie. Dis-la moi toi-même, ça me fera plaisir.
Il y a une heure, reprit-elle, vous aviez l'idée de manger, et à présent, vous avez l'idée de dormir.
Marie, je ne suis qu'un bouvier, mais vraiment, tu me prends pour un bœuf. Tu es une méchante fille, et je vois bien que tu ne veux point causer avec moi. Dors donc, cela vaudra mieux que de critiquer un homme qui n'est pas gai.
Si vous voulez causer, causons, dit la petite fille en se couchant à demi auprès de l'enfant et en appuyant sa tête contre le bas. Vous êtes en train de vous tourmenter, Germain, et en cela, vous ne montrez pas beaucoup de courage pour un homme. Que ne dirais-je pas, moi, si je ne me défendais pas de mon mieux contre mon propre chagrin?
Oui, sans doute, et c'est là justement ce qui m'occupe, ma pauvre enfant. Tu vas vivre loin de tes parents et dans un vilain pays de landes et de marécages où tu attraperas les fièvres d'automne, où les bêtes à laine ne profitent pas, ce qui chagrine toujours une bergère qui a bonne intention. Enfin, tu seras au milieu d'étrangers qui ne seront peut-être pas bons pour toi, qui ne comprendront pas ce que tu vaux. Tiens, ça me fait plus de peine que je ne peux te le dire. J'ai envie de te ramener chez ta mère au lieu d'aller à Fourche.
Vous parlez avec beaucoup de bonté, mais sans raison, mon pauvre Germain. On ne doit pas être lâche pour ses amis, et au lieu de me montrer le mauvais côté de mon sort, vous devriez m'en montrer le bon, comme vous faisiez quand nous avons goûté chez la Rebec.
Que veux-tu ? Ça me paraissait ainsi dans ce moment-là, et à présent ça me paraît autrement. Tu ferais mieux de trouver un mari.
Ça ne se peut pas, Germain, je vous l'ai dit, et comme ça ne se peut pas, je n'y pense pas.
Mais enfin, si ça se trouvait, peut-être que si tu voulais me dire comment tu souhaiterais qu'il fût, je parviendrais à imaginer quelqu'un.
Imaginer n'est pas trouver. Moi, je n'imagine rien puisque c'est inutile.
Tu n'aurais pas l'idée de trouver un riche.
Non, bien sûr, puisque je suis pauvre comme Job.
Mais s'il était à son aise, ça ne te ferait pas de peine d'être bien logé, bien nourri, bien vêtu, et dans une famille de braves gens qui te permettraient d'assister ta mère.
Oh, pour cela, oui, assister ma mère est tout mon souhait.
Et si cela se rencontrait, quand même l'homme ne serait pas de la première jeunesse, tu ne ferais pas trop la difficile.
Ah, pardonnez-moi, Germain, c'est justement la chose à laquelle je tiendrais. Je n'aimerais pas un vieux.
Un vieux, sans doute, mais, par exemple, un homme de mon âge.
Votre âge est vieux pour moi, Germain. J'aimerais l'âge de Bastien, quoique Bastien ne soit pas si joli homme que vous.
Tu aimerais mieux Bastien le porcher ?
Dit Germain avec humeur.
Un garçon qui a les yeux faits comme les bêtes qu'il mène ?
Je passerai par-dessus ses yeux à cause de ses 18 ans. Germain se sentit horriblement jaloux.
Allons, dit-il, je vois que tu en tiens pour Bastien. C'est une drôle d'idée, pas moins.
Oui, ce serait une drôle d'idée, répondit la petite Marie en riant aux éclats.
Et ça ferait un drôle de mari. On lui ferait accroire tout ce qu'on voudrait.
Par exemple, l'autre jour, j'avais ramassé une tomate dans le jardin à monsieur le curé. Je lui ai dit que c'était une belle pomme rouge, et il a mordu dedans comme un goulu. Si vous aviez vu quelle grimace, mon Dieu, qu'il était vilain!
Tu ne l'aimes donc pas, puisque tu te moques de lui?
Ce ne serait pas une raison. Mais je ne l'aime pas. Il est brutal avec sa petite sœur, et il est malpropre.
Eh bien, tu ne te sens pas porté pour quelque autre?
Qu'est-ce que ça vous fait, Germain?
Ça ne me fait rien, c'est pour parler.
Je vois, petite fille, que tu as déjà un galant dans la tête. Non, Germain, vous vous trompez. Je n'en ai pas encore. Ça pourra venir plus tard. Mais puisque je ne me marierai que quand j'aurai un peu amassé, je suis destinée à me marier tard et avec un vieux.
Eh bien, prends-en un vieux tout de suite.
Non pas. Quand je ne serai plus jeune, ça me sera égal. À présent, ce serait différent.
Je vois bien, Marie, que je te déplais. C'est assez clair, dit Germain avec dépit et sans peser ses paroles.
La petite Marie ne répondit pas. Germain se pencha vers elle. Elle dormait. Elle était tombée, vaincue et comme foudroyée par le sommeil, comme font les enfants qui dorment déjà lorsqu'ils babillent encore. Germain fut content qu'elle n'eût pas fait attention à ses dernières paroles. Il reconnut qu'elle n'était point sage, et il lui tourna le dos pour se distraire et changer de pensée. Mais il eut beau faire, il ne put s'endormir, ni songer à autre chose qu'à ce qu'il venait de dire. Il tourna 20 fois autour du feu, il s'éloigna, il revint, enfin, se sentant aussi agité que s'il eût avalé de la poudre à canon, il s'appuya contre l'arbre qui abritait les deux enfants et les regarda dormir.
Je ne sais pas comment je ne m'étais jamais aperçu, pensait-il, que cette petite Marie est la plus jolie fille du pays. Elle n'a pas beaucoup de couleur, mais elle a un petit visage frais comme une rose de buisson. Quelle gentille bouche et quel mignon petit nez! Elle n'est pas grande pour son âge, mais elle est faite comme une petite caille et légère comme un petit pinson. Je ne sais pas pourquoi on fait tant de cas chez nous d'une grande et grosse femme bien vermeille. La mienne était plutôt mince et pâle, et elle me plaisait par-dessus tout. Celle-ci est toute délicate, mais elle ne s'en porte pas plus mal, et elle est jolie à voir comme un chevreau blanc. Et puis quel air doux et honnête! Comme on lit son bon cœur dans ses yeux, même lorsqu'ils sont fermés pour dormir. Quant à de l'esprit, elle en a plus que ma chère Catherine n'en avait, il faut en convenir, et on ne s'ennuierait pas avec elle. C'est gai, c'est sage, c'est laborieux, c'est aimant et c'est drôle. Je ne vois pas ce qu'on pourrait souhaiter de mieux.
Mais qu'ai-je à m'occuper de tout cela ? Reprenait Germain en tâchant de regarder d'un autre côté. Mon beau-père ne voudrait pas en entendre parler, et toute la famille me traiterait de fou.
D'ailleurs, elle-même ne voudrait pas de moi, la pauvre enfant. Elle me trouve trop vieux, elle me l'a dit. Elle n'est pas intéressée, elle se soucie peu d'avoir encore de la misère et de la peine, de porter de pauvres habits et de souffrir de la faim pendant 2 ou 3 mois de l'année, pourvu qu'elle contente son cœur un jour et qu'elle puisse se donner un mari qui lui plaira. Elle a raison, elle. Je ferai de même à sa place. Et dès à présent, si je pouvais suivre ma volonté, au lieu de m'embarquer dans un mariage qui ne me sourit pas, je choisirais une fille à mon gré. Plus Germain cherchait à raisonner et à se calmer, moins il en venait à bout. Il s'en allait à 20 pas de là, se perdre dans le brouillard. Et puis, tout d'un coup, il se retrouvait à genoux à côté des 2 enfants endormis. Une fois même, il voulut embrasser Petit Pierre, qui avait un bras passé autour du cou de Marie, et il se trompa si bien que Marie, sentant une haleine chaude comme le feu courir sur ses lèvres, se réveilla et le regarda d'un air tout effaré, ne comprenant rien du tout à ce qui se passait en lui. « Je ne vous voyais pas, mes pauvres enfants, » dit Germain en se retirant bien vite. « J'ai failli tomber sur vous et vous faire du mal. » La petite Marie eut la candeur de le croire et se rendormit. Germain passa de l'autre côté du feu et jura à Dieu qu'il n'en bougerait jusqu'à ce qu'elle fût réveillée. Il tint parole, mais ce ne fut pas sans peine. Il crut qu'il en deviendrait fou. Enfin, vers minuit, le brouillard se dissipa, et Germain put voir les étoiles briller à travers les arbres. La lune se dégagea aussi des vapeurs qui la couvraient et commença à semer des diamants sur la mousse humide. Le tronc des chênes restait dans une majestueuse obscurité. Mais, un peu plus loin, les tiges blanches des bouleaux semblaient une rangée de fantômes dans leur sueur. Le feu se reflétait dans la mare, et les grenouilles, commençant à s'y habituer, hasardaient quelques notes grêles et timides. Les branches anguleuses des vieux arbres, hérissées de pâles lichens, s'étendaient et s'entrecroisaient comme de grands bras décharnés sur la tête de nos voyageurs. C'était un bel endroit, mais si désert et si triste, que Germain, las d'y souffrir, se mit à chanter et à jeter des pierres dans l'eau pour s'étourdir sur l'ennui effrayant de la solitude. Il désirait aussi réveiller la petite Marie, et lorsqu'il vit qu'elle se levait et regardait le temps, il lui proposa de se remettre en route. « Dans 2 heures, lui dit-il, l'approche du jour rendra l'air si froid que nous ne pourrons plus y tenir malgré notre feu. À présent, on voit à se conduire, et nous trouverons bien une maison qui nous ouvrira, ou du moins quelques granges où nous pourrons passer à couvert le reste de la nuit. » Marie n'avait pas de volonté, et quoiqu'elle eût encore grande envie de dormir, elle se disposa à suivre Germain. Celui-ci prit son fils dans ses bras sans le réveiller, et voulut que Marie s'approchât de lui pour se cacher dans son manteau, puisqu'elle ne voulait pas reprendre sa cape roulée autour du petit Pierre. Quand il sentit la jeune fille si près de lui, Germain, qui s'était distraite et égayée un instant, recommença à perdre la tête. 2 ou 3 fois, il s'éloigna brusquement et la laissa marcher seule. Puis, voyant qu'elle avait peine à le suivre, il l'attendait, l'attirait vivement près de lui et la pressait si fort qu'elle en était étonnée et même fâchée sans oser le dire. Comme il ne savait point du tout de quelle direction ils étaient partis, il ne savait pas celle qu'il suivait, si bien qu'ils remontèrent encore une fois tout le bois, se retrouvèrent de nouveau en face de la lande déserte, revinrent sur leurs pas, et après avoir tourné et marché longtemps, ils aperçurent de la clarté à travers les branches. « Bon, voici une maison, » dit Germain, « et des gens déjà éveillés, puisque le feu est allumé. Il est donc bien tard ?» Mais ce n'était pas une maison. C'était le feu de bivouac qu'ils avaient couvert en partant et qui s'était rallumé à la brise. Ils avaient marché pendant 2 heures pour se retrouver au point de départ. Fin du chapitre 10. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 11 de La Mare au Diable. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezoi. La Mare au Diable de George Sand. Chapitre 11. À la belle étoile.
Pour le coup, j'y renonce, dit Germain en frappant du pied. On nous a jeté un sort, c'est bien sûr, et nous ne sortirons d'ici qu'au grand jour. Il faut que cet endroit soit endiablé.
Allons, allons, ne nous fâchons pas, dit Marie, et prenons-en notre parti. Nous ferons un plus grand feu. L'enfant est si bien enveloppé qu'il ne risque rien. Et pour passer une nuit dehors, nous n'en mourrons point. Où avez-vous caché la bâtine, Germain?
Au milieu des grands houx, grand étourdi? C'est commode pour aller la reprendre.
Tiens l'enfant, prends-le, que je retire son lit des broussailles. Je ne veux pas que tu te piques les mains. »
C'est fait, voici le lit, et quelques piqûres ne sont pas des coups de sabre, reprit la brave petite fille.
Elle procéda de nouveau au coucher du petit Pierre, qui était si bien endormi cette fois, qu'il ne s'aperçut en rien de ce nouveau voyage. Germain mit tant de bois au feu que toute la forêt en resplendit à la ronde. Mais la petite Marie n'en pouvait plus, et quoiqu'elle ne se plaignît de rien, elle ne se soutenait plus sur ses jambes. Elle était pâle, et ses dents claquaient de froid et de faiblesse. Germain la prit dans ses bras pour la réchauffer, et l'inquiétude, la compassion, des mouvements de tendresse irrésistibles s'emparant de son cœur, firent taire ses sens. Sa langue se délia comme par miracle, et toute honte cessant, « Marie, lui dit-il, tu me plais, et je suis bien malheureux de ne pas te plaire. Si tu voulais m'accepter pour ton mari, il n'y aurait ni beau-père, ni parents, ni voisins, ni conseils qui puissent m'empêcher de me donner à toi. Je sais que tu rendrais mes enfants heureux, que tu leur apprendrais à respecter le souvenir de leur mère, et ma conscience étant en repos, je pourrais contenter mon cœur. J'ai toujours eu de l'amitié pour toi, et à présent je me sens si amoureux que, si tu me demandais de faire toute ma vie tes mille volontés, je te le jurerais sur l'heure. Vois, je t'en prie, comme je t'aime, et tâche d'oublier mon âge. Pense que c'est une fausse idée qu'on se fait quand on croit qu'un homme de 30 ans est vieux. D'ailleurs, je n'ai que 28 ans. Une jeune fille craint de se faire critiquer en prenant un homme qui a 10 ou 12 ans de plus qu'elle, parce que ce n'est pas la coutume du pays. Mais j'ai entendu dire que dans d'autres pays, on ne regardait point à cela, qu'au contraire, on aimait mieux donner pour soutien à une jeunesse un homme raisonnable et d'un courage bien éprouvé qu'un jeune gars qui peut se déranger et, de bon sujet qu'on le croyait, devenir un mauvais garnement. D'ailleurs, les années ne font pas toujours l'âge. Cela dépend de la force et de la santé qu'on a. Quand un homme est usé par trop de travail et de misère ou par la mauvaise conduite, il est vieux avant 25 ans. Au lieu que moi. Mais tu ne m'écoutes pas, Marie.
Si fait, Germain, je vous entends bien, répondit la petite Marie. Mais je songe à ce que m'a toujours dit ma mère. C'est qu'une femme de 60 ans est bien à plaindre quand son mari en a 70 ou 75 et qu'il ne peut plus travailler pour la nourrir. Il devient infirme, et il faut qu'elle le soigne à l'âge où elle commencerait elle-même à avoir grand besoin de ménagement et de repos. C'est ainsi qu'on arrive à finir sur la paille.
Les parents ont raison de dire cela, j'en conviens, Marie, reprit Germain. Mais enfin, ils sacrifieraient tout le temps de la jeunesse, qui est le meilleur, à prévoir ce qu'on deviendra à l'âge où l'on n'est plus bon à rien, et où il est indifférent de finir d'une manière ou d'une autre. Mais moi, je ne suis pas dans le danger de mourir de faim sur mes vieux jours. Je suis à même d'amasser quelque chose, puisque, vivant avec les parents de ma femme, je travaille beaucoup et ne dépense rien. D'ailleurs, je t'aimerai tant, vois-tu, que ça m'empêchera de vieillir. On dit que quand un homme est heureux, il se conserve, et je sens bien que je suis plus jeune que Bastien pour t'aimer, car il ne t'aime pas, lui. Il est trop bête, trop enfant pour comprendre comme tu es jolie et bonne et faite pour être recherchée. Allons, Marie, ne me déteste pas. Je ne suis pas un méchant homme. J'ai rendu ma Catherine heureuse. Elle a dit devant Dieu à son lit de mort qu'elle n'avait jamais eu de moi que du contentement, et elle m'a recommandé de me remarier. Il semble que son esprit ait parlé ce soir à son enfant, au moment où il s'est endormi. Est-ce que tu n'as pas entendu ce qu'il disait? Et comme sa petite bouche tremblait, pendant que ses yeux regardaient en l'air quelque chose que nous ne pouvions pas voir. Il voyait sa mère, sois-en sûre, et c'était elle qui lui faisait dire qu'il te voulait pour la remplacer.
« Germain, répondit Marie, tout étonnée et toute pensive, vous parlez honnêtement, et tout ce que vous dites est vrai. Je suis sûre que je ferais bien de vous aimer, si ça ne mécontentait pas trop vos parents. Mais que voulez-vous que j'y fasse? Le cœur ne m'en dit pas pour vous. Je vous aime bien, mais quoique votre âge ne vous en les dise pas, il me fait peur. Il me semble que vous êtes quelque chose pour moi, comme un oncle ou un parrain, que je vous dois le respect, et que vous auriez des moments où vous me traiteriez comme une petite fille plutôt que comme votre femme et votre égale. Enfin, mes camarades se moqueraient peut-être de moi, et quoique ça soit une sottise de faire attention à cela, je crois que je serais honteuse et un peu triste le jour de mes noces.
Ce sont là des raisons d'enfant. Tu parles tout à fait comme un enfant, Marie.
Eh bien oui, je suis un enfant, dit-elle, et c'est à cause de cela que je crains un homme trop raisonnable. Vous voyez bien que je suis trop jeune pour vous, puisque déjà vous me reprochez de parler sans raison. Je ne puis pas avoir plus de raison que mon âge n'en comporte. Hélas, mon Dieu, que je suis donc à plaindre d'être si maladroit et de dire si mal ce que je pense ? S'écria Germain. Marie, vous ne m'aimez pas, voilà le fait. Vous me trouvez trop simple et trop lourd. Si vous m'aimiez un peu, vous ne verriez pas si clairement mes défauts. Mais vous ne m'aimez pas, voilà.
Eh bien, ce n'est pas ma faute, répondit-elle, un peu blessée de ce qu'il ne la tutoyait plus. J'y fais mon possible en vous écoutant, mais plus je m'y essaie et moins je peux me mettre dans la tête que nous devions être mari et femme.
Germain ne répondit pas. Il mit sa tête dans ses deux mains, et il fut impossible à la petite Marie de savoir s'il pleurait, s'il boudait ou s'il était endormi. Elle fut un peu inquiète de le voir si morne et de ne pas deviner ce qui roulait dans son esprit. Mais elle n'osa pas lui parler davantage, et comme elle était trop étonnée de ce qui venait de se passer pour avoir envie de se rendormir, elle attendit le jour avec impatience, soignant toujours le feu, éveillant l'enfant, dont Germain paraissait ne plus se souvenir. Cependant Germain ne dormait point. Il ne réfléchissait pas à son sort, il ne faisait ni projet de courage, ni plan de séduction. Il souffrait. Il avait une montagne d'ennui sur le cœur. Il aurait voulu être mort. Tout paraissait devoir tourner mal pour lui, et s'il eût pu pleurer, il ne l'aurait pas fait à demi. Mais il y avait un peu de colère contre lui-même, mêlée à sa peine, et il l'étouffait sans pouvoir et sans vouloir se plaindre. Quand le jour fut venu et que les bruits de la campagne l'annoncèrent à Germain, il sortit son visage de ses mains et se leva. Il vit que la petite Marie n'avait pas dormi non plus, mais il ne sut rien lui dire pour marquer sa sollicitude. Il était tout à fait découragé. Il cacha de nouveau le bas de la grise dans les buissons, prit son sac sur son épaule, et tenant son fils par la main.
« À présent, Marie, dit-il, nous allons tâcher d'achever notre voyage. Veux-tu que je te conduise aux ormeaux ?»«
Nous sortirons du bois ensemble, lui répondit-elle, et quand nous saurons où nous sommes, nous irons chacun de notre côté. »
Germain ne répondit pas. Il était blessé de ce que la jeune fille ne lui demandait pas de l'amener jusqu'aux ormeaux, et il ne s'apercevait pas qu'il le lui avait offert d'un ton qui semblait provoquer un refus. Un bûcheron qu'ils rencontrèrent au bout de 200 pas les mit dans le bon chemin et leur dit qu'après avoir passé la grande prairie, ils n'avaient qu'à prendre l'un tout droit, l'autre sur la gauche, pour gagner leurs différents gîtes, qui étaient d'ailleurs si voisins qu'on voyait distinctement les maisons de Fourche de la ferme des ormeaux et réciproquement. Puis, quand ils eurent remercié et dépassé le bûcheron, celui-ci les rappela pour leur demander s'ils n'avaient pas perdu un cheval.
« J'ai trouvé, leur dit-il, une belle jument grise dans ma cour, où peut-être le loup l'aura forcé de chercher un refuge. Mes chiens ont jappé à nuitée, et au point du jour, j'ai vu la bête chevaline sous mon hangar. Elle y est encore. Allons-y, et si vous la reconnaissez, emmenez-la. »
Germain, ayant donné d'avance le signalement de la grise, et s'étant convaincu qu'il s'agissait bien d'elle, se mit en route pour aller rechercher son bât. La petite Marie lui offrit alors de conduire son enfant aux ormeaux, où il viendrait le reprendre lorsqu'il aurait fait son entrée à Fourche. « Il est un peu malpropre après la nuit que nous avons passée, » dit-elle. « Je nettoierai ses habits, je laverai son joli museau, je le peignerai, et, quand il sera beau et brave, vous pourrez le présenter à votre nouvelle famille. »
« Et qui te dit que je veuille aller à Fourche ?» répondit Germain avec humeur. « Peut-être n'irai-je pas ?»«
Si fait, Germain, vous devez y aller, vous irez, » reprit la jeune fille.
Tu es bien pressé que je me marie avec une autre, afin d'être sûr que je ne t'ennuierai plus.
Allons, Germain, ne pensez plus à cela. C'est une idée qui vous est venue dans la nuit, parce que cette mauvaise aventure avait un peu dérangé vos esprits. Mais à présent, il faut que la raison vous revienne. Je vous promets d'oublier ce que vous m'avez dit et de n'en jamais parler à personne.
Et parle-en si tu veux. Je n'ai pas l'habitude de renier mes paroles. Ce que je t'ai dit était vrai, honnête, et je n'en rougirai devant personne.
Oui. Mais si votre femme savait qu'au moment d'arriver, vous avez pensé à une autre, ça la disposerait mal pour vous. Ainsi faites attention aux paroles que vous direz maintenant. Ne me regardez pas comme ça devant le monde avec un air tout singulier. Songez au père Maurice qui compte sur votre obéissance et qui serait bien en colère contre moi si je vous détournais de faire sa volonté. Bonjour, Germain. J'emmène Petit Pierre afin de vous forcer d'aller à Fourche. C'est un gage que je vous garde.
Tu veux donc aller avec elle ?
Dit le laboureur à son fils, en voyant qu'il s'attachait aux mains de la petite Marie et qu'il la suivait résolument. « Oui, père, » répondit l'enfant qui avait écouté et compris à sa manière ce qu'on venait de dire sans méfiance devant lui. « Je m'en vais avec ma Marie mignonne. Tu viendras me chercher quand tu auras fini de te marier.
mais je veux que Marie reste ma petite mère. »
« Tu vois bien qu'il le veut, lui, » dit Germain à la jeune fille. « Écoute, petit Pierre, » ajouta-t-il, « moi je le souhaite qu'elle soit ta mère et qu'elle reste toujours avec toi. C'est elle qui ne le veut pas. Tâche qu'elle t'accorde ce qu'elle me refuse. »
« Sois tranquille, mon père, je lui ferai dire oui. La petite Marie fait toujours ce que je veux. »
Il s'éloigna avec la jeune fille. Germain resta seul, plus triste, plus irrésolu que jamais.
Fin du chapitre 11. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 12 de La Mare au Diable. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezoa. La Mare au Diable de George Sand. Chapitre 12. La Lionne du Village. Cependant, quand il eut réparé le désordre du voyage dans ses vêtements et dans l'équipage de son cheval, quand il fut monté sur la grise et qu'on lui eut indiqué le chemin de Fourche, il pensa qu'il n'y avait plus à reculer et qu'il fallait oublier cette nuit d'agitation comme un rêve dangereux. Il trouva le père Léonard au seuil de sa maison blanche, assis sur un beau banc de bois peint en vert épinard. Il y avait 6 marches de pierre disposées en perron, ce qui faisait voir que la maison avait une cave. Le mur du jardin et de la chènevière était crépi à chaux et à sable. C'était une belle habitation. Il s'en fallait de peu pour qu'on ne la prît pour une maison de bourgeois. Le futur beau-père vint au-devant de Germain, et après lui avoir demandé pendant 5 minutes des nouvelles de toute sa famille, il ajouta la phrase consacrée à questionner poliment ceux qu'on rencontre sur le but de leur voyage.
« Vous êtes donc venu pour vous promener par ici ?»«
Je suis venu vous voir, » répondit le laboureur, « et vous présenter ce petit cadeau de gibier de la part de mon beau-père, en vous disant aussi de sa part que vous devez savoir dans quelles intentions je viens chez vous. »
« Ha ha !» dit le père Léonard en riant et en frappant sur son estomac rebondi. « Je vois, j'entends, j'y suis !» Et clignant de l'œil, il ajouta « Vous ne serez pas le seul à faire vos compliments, mon jeune homme. Il y en a déjà 3 à la maison qui attendent comme vous. Moi, je ne renvoie personne, et je serai bien embarrassé de donner tort ou raison à quelqu'un, car ce sont tous de bon parti. Pourtant, à cause du père Maurice et de la qualité des terres que vous cultivez, j'aimerais mieux que ce fût vous. Mais ma fille est majeure et maîtresse de son bien. Elle agira donc selon son idée. Entrez, faites-vous connaître. Je souhaite que vous ayez le bon numéro. »
« Pardon, excuse, » répondit Germain, fort surpris de se trouver en surnuméraire là où il avait compté d'être seul. « Je ne savais pas que votre fille fût déjà pourvue de prétendants, et je n'étais pas venu pour la disputer aux autres. »
« Si vous avez cru que, parce que vous tardiez à venir, » répondit sans perdre sa bonne humeur le père Léonard, « ma fille se trouvait au dépourvu, vous vous êtes grandement trompé, mon garçon. La Catherine a de quoi attirer les épouseurs, et elle n'aura que l'embarras du choix. Mais entrez à la maison, vous dis-je, et ne perdez pas courage. C'est une femme qui vaut la peine d'être disputée. »
Et poussant Germain par les épaules avec une rude gaieté,
« Allons, Catherine !» s'écria-t-il en entrant dans la maison. « En voilà un de plus !»
Cette manière joviale mais grossière d'être présentée à la veuve, en présence de ses autres soupirants, acheva de troubler et de mécontenter le laboureur. Il se sentit gauche et resta quelques instants sans oser lever les yeux sur la belle et sur sa cour. La veuve Guérin était bien faite et ne manquait pas de fraîcheur. Mais elle avait une expression de visage et une toilette qui déplurent tout d'abord à Germain. Elle avait l'air hardie et contente d'elle-même, et ses cornettes garnies d'un triple rang de dentelle, son tablier de soie et son fichu de blonde noire étaient peu en rapport avec l'idée qu'il s'était faite d'une veuve sérieuse et rangée. Cette recherche d'habillement et ses manières dégagées la lui firent trouver vieille et laide, quoiqu'elle ne fût ni l'un ni l'autre. Il pensa qu'une si jolie parure et des manières si enjouées s'iraient à l'âge et à l'esprit de la petite Marie, mais que cette veuve avait la plaisanterie lourde et hasardée, et qu'elle portait sans distinction ses beaux atours. Les 3 prétendants étaient assis à une table chargée de vins et de viandes, qui était là en permanence pour eux toute la matinée du dimanche. Car le père Léonard aimait à faire montre de sa richesse, et la veuve n'était pas fâchée non plus d'étaler sa belle vaisselle et de tenir table comme une rentière. Germain, tout simple et confiant qu'il était, observa les choses avec assez de pénétration, et pour la première fois de sa vie, il se tint sur la défensive en trinquant. Le père Léonard l'avait forcé de prendre place avec ses rivaux, et, s'asseyant lui-même vis-à-vis de lui,
il le traitait de son mieux et s'occupait de lui avec prédilection. Le cadeau de gibier, malgré la brèche que Germain y avait faite pour son propre compte, était encore assez copieux pour produire de l'effet. La veuve y parut sensible, et les prétendants y jetèrent un coup d'œil de dédain. Germain se sentait mal à l'aise en cette compagnie et ne mangeait pas de bon cœur. Le père Léonard l'en plaisanta. « Vous voilà bien triste, lui dit-il, et vous boudez contre votre verre. Il ne faut pas que l'amour vous coupe l'appétit, car un galant à jeun ne sait point trouver de jolies paroles comme celui qui s'est éclairci les idées avec une petite pointe de vin. » Germain fut mortifié qu'on le supposât déjà amoureux, et l'air maniéré de la veuve, qui baissa les yeux en souriant, comme une personne sûre de son fait, lui donna l'envie de protester contre sa prétendue défaite. Mais il craignit de paraître incivil, sourit, et prit patience. Les galants de la veuve lui parurent trois rustres. Il fallait qu'ils fussent bien riches pour qu'elle admît leurs prétentions. L'un avait plus de 40 ans et était quasi aussi gros que le père Léonard. Un autre était borgne et buvait tant qu'il en était abruti. Le troisième était jeune et assez joli garçon. Mais il voulait faire de l'esprit et disait des choses si plates que cela faisait pitié. Pourtant la veuve en riait, comme si elle eût admiré toutes ses sottises, et en cela, elle ne faisait pas preuve de goût. Germain crut d'abord qu'elle en était coiffée, mais bientôt il s'aperçut qu'il était lui-même encouragé d'une manière particulière et qu'on souhaitait qu'il se livrât davantage. Ce lui fut une raison pour se sentir et se montrer plus froid et plus grave. L'heure de la messe arriva, et on se leva de table pour s'y rendre ensemble. Il fallait aller jusqu'à Mer, à une bonne demi-lieue de là, et Germain était si fatigué qu'il eût fort souhaité avoir le temps de faire un somme auparavant. Mais il n'avait pas coutume de manquer la messe, et il se mit en route avec les autres. Les chemins étaient couverts de monde, et la veuve marchait d'un air fier, escortée de ses trois prétendants, donnant le bras tantôt à l'un, tantôt à l'autre, se rengorgeant et portant haut la tête. Elle eut fort souhaité produire le quatrième aux yeux des passants. Mais Germain trouva si ridicule d'être traîné ainsi de compagnie par un cotillon à la vue de tout le monde, qu'il se tint à distance convenable, causant avec le père Léonard, et trouvant moyen de le distraire et de l'occuper assez pour qu'ils n'eussent point l'air de faire partie de la bande. Fin du chapitre 12. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 13 de La Mare au Diable. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezoie. La Mare au Diable de George Sand. Chapitre 13. Le Maître. Lorsqu'ils atteignirent le village, la veuve s'arrêta pour les attendre. Elle voulait absolument faire son entrée avec tout son monde. Mais Germain, lui refusant cette satisfaction, quitta le père Léonard, accosta plusieurs personnes de sa connaissance et entra dans l'église par une autre porte. La veuve en eut du dépit. Après la messe, elle se montra partout triomphante sur la pelouse où l'on dansait et ouvrit la danse avec ses trois amoureux successivement. Germain la regarda faire et trouva qu'elle dansait bien, mais avec affectation. « Eh bien, lui dit Léonard en lui frappant sur l'épaule, vous ne faites donc pas danser ma fille? Vous êtes aussi par trop timide. » « Je ne danse plus depuis que j'ai perdu ma femme, répondit le laboureur. « Eh bien, puisque vous en recherchez une autre, le deuil est fini dans le cœur comme sur l'habit. » « Ce n'est pas une raison, père Léonard. D'ailleurs, je me trouve trop vieux, je n'aime plus la danse. » « Écoutez, reprit Léonard en l'attirant dans un endroit isolé, vous avez pris du dépit en entrant chez moi de voir la place déjà entourée d'assiégeants, et je vois que vous êtes très fier. Mais ceci n'est pas raisonnable, mon garçon. Ma fille est habituée à être courtisée, surtout depuis 2 ans qu'elle a fini son deuil, et ce n'est pas à elle à aller au-devant de vous. Il y a déjà 2 ans que votre fille est à marier, et elle n'a pas encore pris son parti, dit Germain. Elle ne veut pas se presser, et elle a raison. Quoiqu'elle ait la mine éveillée, et qu'elle vous paraisse peut-être ne pas beaucoup réfléchir, c'est une femme d'un grand sens, et qui sait fort bien ce qu'elle fait. Il ne me semble pas, dit Germain ingénument, car elle a 3 galants à sa suite, et si elle savait ce qu'elle veut, il y en aurait au moins 2 qu'elle trouverait de trop et qu'elle prierait de rester chez eux. Pourquoi donc? Vous n'y entendez rien, Germain. Elle ne veut ni du vieux, ni du borgne, ni du jeune, j'en suis quasi certain. Mais si elle les renvoyait, on penserait qu'elle veut rester veuve, et il n'en viendrait pas d'autre. Ah oui, ceux-là servent d'enseigne. Comme vous dites,
Où est le mal si cela leur convient ?
Chacun son goût, dit Germain.
Je vois que ce ne serait pas le vôtre.
Mais voyons, on peut s'entendre. À supposer que vous soyez préféré, on pourrait vous laisser la place.
Oui, à supposer, et en attendant qu'on puisse le savoir, combien de temps faudrait-il rester le nez au vent ?
Ça dépend de vous, je crois, si vous savez parler et persuader.
Jusqu'ici, ma fille a très bien compris que le meilleur temps de sa vie serait celui qu'elle passerait à se laisser courtiser, et elle ne se sent pas pressée de devenir la servante d'un homme quand elle peut commander à plusieurs. Ainsi, tant que le jeu lui plaira, elle peut se divertir. Mais si vous plaisez plus que le jeu pourra cesser. Vous n'avez qu'à ne pas vous rebuter. Revenez tous les dimanches, faites-la danser, donnez à connaître que vous vous mettez sur les rangs, et si on vous trouve plus aimable et mieux appris que les autres, un beau jour, on vous le dira sans doute.
Pardon, père Léonard, votre fille a le droit d'agir comme elle l'entend, et je n'ai pas celui de la blâmer. À sa place, moi, j'agirais autrement. J'y mettrais plus de franchise, et je ne ferai pas perdre du temps à des hommes qui ont sans doute quelque chose de mieux à faire qu'à tourner autour d'une femme qui se moque d'eux. Mais enfin, si elle trouve son amusement et son bonheur à cela, cela ne me regarde point. Seulement, il faut que je vous dise une chose qui m'embarrasse un peu à vous avouer depuis ce matin. Vu que vous avez commencé par vous tromper sur mes intentions et que vous ne m'avez pas donné le temps de vous répondre, si bien que vous croyez ce qui n'est point. Sachez donc que je ne suis pas venu ici dans la vue de demander votre fille en mariage, mais dans celle de vous acheter une paire de bœufs que vous voulez conduire en foire la semaine prochaine et que mon beau-père suppose lui convenir.
« J'entends, Germain, » répondit Léonard fort tranquillement. « Vous avez changé d'idée en voyant ma fille avec ses amoureux.
C'est comme il vous plaira. Il paraît que ce qui attire les uns rebute les autres, et vous avez le droit de vous retirer puisque, aussi bien, vous n'avez pas encore parlé. Si vous voulez sérieusement acheter mes bœufs, venez les voir au pâturage. Nous en causerons, et que nous fassions ou non ce marché, vous viendrez dîner avec nous avant de vous en retourner. »
« Je ne veux pas que vous vous dérangiez, » reprit Germain. « Vous avez peut-être affaire ici. Moi, je m'ennuie un peu de voir danser et de ne rien faire. Je vais voir vos bêtes et je vous trouverai tantôt chez vous. »
Là-dessus, Germain s'esquiva et se dirigea vers les prés, où Léonard lui avait en effet montré de loin une partie de son bétail. Il était vrai que le père Maurice en avait à acheter, et Germain pensa que s'il lui ramenait une belle paire de bœufs d'un prix modéré, il se ferait mieux pardonner d'avoir manqué volontairement le but de son voyage. Il marcha vite, et se trouva bientôt à peu de distance des Ormeaux. Il éprouva alors le besoin d'aller embrasser son fils, et même de revoir la petite Marie, quoiqu'il eût perdu l'espoir et chassé la pensée de lui devoir son bonheur. Tout ce qu'il venait de voir et d'entendre, cette femme coquette et vaine, ce père à la fois rusé et borné, qui encourageait sa fille dans des habitudes d'orgueil et de déloyauté, ce luxe des villes, qui lui paraissait une infraction à la dignité des mœurs de la campagne, ce temps perdu à des paroles oiseuses et niaises, cet intérieur si différent du sien, et surtout, ce malaise profond que l'homme des champs éprouve lorsqu'il sort de ses habitudes laborieuses, tout ce qu'il avait subi d'ennui et de confusion depuis quelques heures donnait à Germain l'envie de se retrouver avec son enfant et sa petite voisine. N'eût-il pas été amoureux de cette dernière, il l'aurait encore cherchée pour se distraire et remettre ses esprits dans leur assiette accoutumée. Mais il regarda en vain dans les prairies environnantes, il n'y trouva ni la petite Marie, ni le petit Pierre. Il était pourtant l'heure où les pasteurs sont aux champs. Il y avait un grand troupeau dans une chaume. Il demanda à un jeune garçon qui le gardait si c'était les moutons de la métairie des Ormeaux.
« Oui, » dit l'enfant.
« En êtes-vous le berger ? Est-ce que les garçons gardent les bêtes à laine des métairies dans votre endroit ?»«
Non, je les garde aujourd'hui parce que la bergère est partie. Elle était malade.
N'avez-vous pas une nouvelle bergère arrivée de ce matin ?»«
Oh bien oui, elle est déjà partie aussi. »
« Comment partie ? N'avait-elle pas un enfant avec elle ?»«
Oui, un petit garçon qui a pleuré. Ils se sont en allés tous les deux au bout de 2 heures. »«
En allés où ?»«
D'où ils venaient, apparemment. Je ne leur ai pas demandé. »«
Mais pourquoi donc s'en allait-il ? » dit Germain de plus en plus inquiet.
« Dame, est-ce que je sais ? » ?»«
On ne s'est pas entendu sur le prix ? » ?»«
Ce devait être pourtant une chose convenue d'avance. » »«
Je ne peux rien vous en dire. Je les ai vus entrer et sortir, voilà tout. »
Germain se dirigea vers la ferme et questionna les métayers. Personne ne put lui expliquer le fait, mais il était constant qu'après avoir causé avec le fermier, la jeune fille était partie sans rien dire, emmenant l'enfant qui pleurait.
« Est-ce qu'on a maltraité mon fils ?» s'écria Germain dont les yeux s'enflammèrent.
« C'était donc votre fils ?
comment se trouvait-il avec cette petite? D'où êtes-vous donc et comment vous appelle-t-on? »
Germain, voyant que, selon l'habitude du pays, on allait répondre à ses questions par d'autres questions, frappa du pied avec impatience et demanda à parler au maître. Le maître n'y était pas. Il n'avait pas coutume de rester toute la journée entière quand il venait à la ferme. Il était monté à cheval, et il était parti on ne savait pour quelle autre de ses fermes. « Mais enfin, » dit Germain en proie à une vive anxiété, « ne pouvez-vous savoir la raison du départ de cette jeune fille ?» Le métayer échangea un sourire étrange avec sa femme. Puis il répondit qu'il n'en savait rien, que cela ne le regardait pas. Tout ce que Germain put apprendre, c'est que la jeune fille et l'enfant étaient allés du côté de Fourche. Il courut à Fourche. La veuve et ses amoureux n'étaient pas de retour, non plus que le père Léonard. La servante lui dit qu'une jeune fille et un enfant étaient venus le demander, mais que, ne les connaissant pas, elle n'avait pas voulu les recevoir et leur avait conseillé d'aller à mer. « Et pourquoi avez-vous refusé de les recevoir ?» dit Germain avec humeur. « On est donc bien méfiant dans ce pays-ci qu'on n'ouvre pas la porte à son prochain ?»«
Ah, dame !» répondit la servante. « Dans une maison riche comme celle-ci, on a raison de faire bonne garde. Je réponds de tout quand les maîtres sont absents et je ne peux pas ouvrir au premier venu. »
« C'est une laide coutume, » dit Germain, « et j'aimerais mieux être pauvre que de vivre comme cela dans la crainte. Adieu, la fille, adieu à votre vilain pays !»
Il s'enquit dans les maisons environnantes. On avait vu la bergère et l'enfant. Comme le petit était parti de Bel Air à l'improviste, sans toilette, avec sa blouse un peu déchirée et sa petite peau d'agneau sur le corps. Comme aussi la petite Marie était, pour cause, fort pauvrement vêtue en tout temps, on les avait pris pour des mendiants. On leur avait offert du pain. La jeune fille en avait accepté un morceau pour l'enfant qui avait faim, puis elle était partie très vite avec lui et avait gagné les bois. Germain réfléchit un instant, puis il demanda si le fermier des Ormeaux n'était pas venu à Fourche.
« Oui, » lui répondit-on, « il a passé à cheval peu d'instants après cette petite. »
« Est-ce qu'il a couru après elle ?»«
Ah, vous le connaissez donc ?» dit en riant le cabaretier de l'endroit auquel il s'adressait.
« Oui, certes. » C'est un gaillard endiablé pour courir après les filles. Mais je ne crois pas qu'il ait attrapé celle-là.
Quoique, après tout, s'il l'eût vue...
C'est assez, merci. Et il vola plutôt qu'il ne courut à l'écurie de Léonard. Il jeta la bâtine sur la grise, sauta dessus et partit au grand galop dans la direction des bois de Chanteloube. Le cœur lui bondissait d'inquiétude et de colère. La sueur lui coulait du front. Il mettait en sang les flancs de la grise, qui, en se voyant sur le chemin de son écurie, ne se faisait pourtant pas prier pour courir. Fin du chapitre 13. Cet enregistrement fait partie du domaine public.
Chapitre 14 de La Mare au Diable. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezoie. La Mare au Diable de George Sand. Chapitre 14. La vieille. Germain se retrouva bientôt à l'endroit où il avait passé la nuit au bord de la mare. Le feu fumait encore. Une vieille femme ramassait le reste de provisions de bois mort que la petite Marie y avait entassées. Germain s'arrêta pour la questionner. Elle était sourde, et se méprenant sur ses interrogations,
« Oui, mon garçon, » dit-elle, « c'est ici la mare au diable. C'est un mauvais endroit. » Et il ne faut pas en approcher sans jeter trois pierres dedans de la main gauche, en faisant le signe de la croix de la main droite. Ça éloigne les esprits. Autrement, il arrive des malheurs à ceux qui en font le tour.
« Je ne vous parle pas de ça !» dit Germain en s'approchant d'elle et en criant à tue-tête. « N'avez-vous pas vu passer dans le bois une fille et un enfant ?»«
Oui, » dit la vieille. « Il s'est noyé un petit enfant. »
Germain frémit de la tête aux pieds. Mais heureusement, la vieille ajouta,
« Il y a bien longtemps de ça. En mémoire de l'accident, on y avait planté une belle croix. Mais par une belle nuit de grand orage, les mauvais esprits l'ont jetée dans l'eau. On peut en voir encore un bout. Si quelqu'un avait le malheur de s'arrêter ici la nuit, il serait bien sûr de ne pouvoir jamais en sortir avant le jour. Il aurait beau marcher, marcher, il pourrait faire 200 lieues dans le bois et se retrouver toujours à la même place. »
L'imagination du laboureur se frappa malgré lui de ce qu'il entendait, et l'idée du malheur qui devait arriver pour achever de justifier les assertions de la vieille femme
s'empara si bien de sa tête qu'il se sentit froid par tout le corps. Désespérant d'obtenir d'autres renseignements, il remonta à cheval et recommença de parcourir le bois en appelant Pierre de toutes ses forces et en sifflant, faisant claquer son fouet, cassant les branches pour remplir la forêt du bruit de sa marche, écoutant ensuite si quelque voix lui répondait. Mais il n'entendait que la cloche des vaches éparses dans les taillis et le cri sauvage des porcs qui se disputaient la glandée. Enfin, Germain entendit derrière lui le bruit d'un cheval qui courait sur ses traces, et un homme entre deux âges, brun, robuste, habillé comme un demi-bourgeois, lui cria de s'arrêter. Germain n'avait jamais vu le fermier des Ormeaux, mais un instinct de rage lui fit juger de suite que c'était lui. Il se retourna, et le toisant de la tête aux pieds, il attendit ce qu'il avait à lui dire.
« N'avez-vous pas vu passer par ici une jeune fille de 15 ou 16 ans avec un petit garçon ?»
dit le fermier en affectant un air d'indifférence, quoiqu'il fût visiblement ému.
« Et que lui voulez-vous ? » répondit Germain sans chercher à déguiser sa colère.
« Je pourrais vous dire que ça ne vous regarde pas, mon camarade. Mais comme je n'ai pas de raison pour le cacher, je vous dirai que c'est une bergère que j'avais louée pour l'année sans la connaître. Quand je l'ai vue arriver, elle m'a semblé trop jeune et trop faible pour l'ouvrage de la ferme. Je l'ai remerciée, mais je voulais lui payer les frais de son petit voyage, et elle est partie fâchée pendant que j'avais le dos tourné. Elle s'est tant pressée qu'elle a même oublié une partie de ses effets et sa bourse, qui ne contient pas grand-chose à coup sûr, quelques sous probablement. Mais enfin, comme j'avais à passer par ici, je pensais la rencontrer et lui remettre ce qu'elle a oublié et ce que je lui dois. »
Germain avait l'âme trop honnête pour ne pas hésiter en entendant cette histoire, sinon très vraisemblable, du moins possible. Il attachait un regard perçant sur le fermier qui soutenait son investigation avec beaucoup d'impudence ou de candeur.
« Je veux en avoir le cœur net, » se dit Germain, et contenant son indignation.
« C'est une fille de chez nous, » dit-il. « Je la connais. Elle doit être par ici. Avançons ensemble. Nous la retrouverons sans doute. »
« Vous avez raison, » dit le fermier. « Avançons. Et pourtant, si nous ne la trouvons pas au bout de l'avenue, j'y renonce, car il faut que je prenne le chemin d'Ardente. »«
Oh !» pensa le laboureur, « je ne te quitte pas. Quand même je devrais tourner pendant 24 heures avec toi autour de la mare au diable. »«
Attendez !» dit tout à coup Germain en fixant des yeux une touffe de genêt qui s'agitait singulièrement.
« Hola ! Hola ! Petit Pierre, est-ce toi mon enfant ?»
L'enfant, reconnaissant la voix de son père, sortit des genêts en sautant comme un chevreuil, mais quand il le vit dans la compagnie du fermier, il s'arrêta comme effrayé et resta incertain.
« Viens, mon Pierre, viens, c'est moi !» s'écria le laboureur en courant après lui et en sautant à bas de son cheval pour le prendre dans ses bras.
« Et où est la petite Marie ?»«
Elle est là, qui se cache, parce qu'elle a peur de ce vilain homme noir, et moi aussi. »«
Hé, sois tranquille, je suis là !»
« Marie, Marie, c'est moi !»
Marie approcha en rampant, et dès qu'elle vit Germain, que le fermier suivait de près, elle courut se jeter dans ses bras, et s'attachant à lui comme une fille à son père.
« Ah, mon brave Germain !» lui dit-elle, « vous me défendrez, je n'ai pas peur avec vous. »
Germain eut le frisson. Il regarda Marie. Elle était pâle. Ses vêtements étaient déchirés par les épines où elle avait couru, cherchant le fourré, comme une biche traquée par les chasseurs. Mais il n'y avait ni honte ni désespoir sur sa figure.
« Ton maître veut te parler, » lui dit-il, en observant toujours ses traits.
« Mon maître ? » dit-elle fièrement. « Cet homme-là n'est pas mon maître et ne le sera jamais. C'est vous, Germain, qui êtes mon maître. Je veux que vous me rameniez avec vous. Je vous servirai pour rien. »
Le fermier s'était avancé, feignant un peu d'impatience.
« Hé, la petite, » dit-il, « vous avez oublié chez nous quelque chose que je vous rapporte. »«
Nenni, monsieur, » répondit la petite Marie, « je n'ai rien oublié et je n'ai rien à vous demander. »«
Écoutez un peu ici, » reprit le fermier, « j'ai quelque chose à vous dire, moi. »«
Allons, n'ayez pas peur, deux mots seulement. »«
Vous pouvez les dire tout haut, je n'ai pas de secret avec vous. »«
Venez prendre votre argent, au moins. »«
Mon argent ?»
Vous ne me devez rien, Dieu merci. »
Je m'en doutais bien, dit Germain à demi-voix.
Mais c'est égal, Marie. Écoute ce qu'il a à te dire, car moi je suis curieux de le savoir. Tu me le diras après, j'ai mes raisons pour ça. Va auprès de son cheval,
je ne te perds pas de vue. » Marie fit trois pas vers le fermier qui lui dit, en se penchant sur le pommeau de sa selle et en baissant la voix, « Petite, voilà un beau louis d'or pour toi. Tu ne diras rien, entends-tu? Je dirai que je t'ai trouvé trop faible pour l'ouvrage de ma ferme, et qu'il ne soit plus question de ça. Je repasserai par chez vous un de ces jours, et si tu n'as rien dit, je te donnerai encore quelque chose. Et puis, si tu es plus raisonnable, tu n'as qu'à parler. Je te ramènerai chez moi, ou bien j'irai causer avec toi à la brune dans les prés. Quel cadeau veux-tu que je te porte ?»«
Voilà, monsieur, le cadeau que je vous fais, moi !» répondit à haute voix la petite Marie, en lui jetant son louis d'or au visage, et même assez rudement. « Je vous remercie beaucoup, et vous prie, quand vous repasserez par chez nous, de me faire avertir. Tous les garçons de mon endroit iront vous recevoir, parce que chez nous, on aime fort les bourgeois qui veulent en compter aux pauvres filles. Vous verrez ça, on vous attendra. »«
Vous êtes une menteuse et une sotte langue !» dit le fermier courroucé en levant son bâton d'un air de menace. « Vous voudriez faire croire ce qui n'est point, mais vous ne me tirerez pas d'argent. On connaît vos pareils. »
Marie s'était reculée, effrayée, mais Germain s'était élancé à la bride du cheval du fermier et la secouant avec force.
« C'est entendu maintenant, » dit-il, « et nous voyons assez de quoi il retourne. À terre, mon homme, à terre, et causons tous les deux. »
Le fermier ne se souciait pas d'engager la partie. Il éperonna son cheval pour se dégager et voulut frapper de son bâton les mains du laboureur pour lui faire lâcher prise. Mais Germain esquiva le coup, et lui prenant la jambe, il le désarçonna et le fit tomber sur la fougère, où il le terrassa quoique le fermier se fût remis sur ses pieds et se défendit vigoureusement. Quand il le tint sous lui,
« Homme de peu de cœur !» lui dit Germain, « je pourrais te rouer de coups si je voulais, mais je n'aime pas à faire du mal, et d'ailleurs aucune correction n'amenderait ta conscience. Cependant, tu ne bougeras pas d'ici que tu n'aies demandé pardon à genoux à cette jeune fille. »
Le fermier, qui connaissait ces sortes d'affaires, voulut prendre la chose en plaisanterie. Il prétendit que son péché n'était pas si grave, puisqu'il ne consistait qu'en paroles, et qu'il voulait bien demander pardon, à condition qu'il embrasserait la fille, et que l'on irait boire une pinte de vin au prochain cabaret, et qu'on se quitterait bons amis.
« Tu me fais peine, » répondit Germain en lui poussant la face contre terre. « Et j'ai hâte de ne plus voir ta méchante mine. Tiens, rougis si tu peux, et tâche de prendre le chemin des affronteux quand tu passeras par chez nous. »
Note, c'est le chemin qui détourne de la rue principale à l'entrée des villages et les côtoie à l'extérieur. On suppose que les gens qui craignent de recevoir quelque affront mérité le prennent pour éviter d'être vus. Fin de la note. Il ramassa le bâton de houx du fermier, le brisa sur son genou pour lui montrer la force de ses poignets et en jeta les morceaux au loin avec mépris. Puis, prenant d'une main son fils et de l'autre la petite Marie, il s'éloigna tout tremblant d'indignation. Fin du chapitre 14. Cet enregistrement fait partie du domaine public.
Chapitre 15 de La Mare au Diable. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezoie. La Mare au Diable de George Sand. Chapitre 15. Le retour à la ferme. Au bout d'un quart d'heure, ils avaient franchi les brandes. Ils trottaient sur la grand-route, et la grise hennissait à chaque objet de sa connaissance. Petit Pierre racontait à son père ce qu'il avait pu comprendre dans ce qui s'était passé.
« Quand nous sommes arrivés, dit-il, cet homme-là est venu pour parler à ma Marie dans la bergerie où nous avons été tout de suite pour voir les beaux moutons. Moi, j'étais montée dans la crèche pour jouer, et cet homme-là ne me voyait pas. Alors il a dit bonjour à ma Marie, et il l'a embrassée.
« Tu t'es laissée embrasser, Marie ?» dit Germain, tout tremblant de colère. « J'ai cru que c'était une honnêteté, une coutume de l'endroit où vous arrivez, comme, chez vous, la grand-mère embrasse les jeunes filles qui entrent à son service pour leur faire voir qu'elle les adopte et qu'elle leur sera comme une mère. »
« Et puis alors ?»
reprit Petit Pierre, qui était fier d'avoir à raconter une aventure.
« Cet homme-là t'a dit quelque chose de vilain, quelque chose que tu m'as dit de ne jamais répéter et de ne pas m'en souvenir. Aussi je l'ai oublié bien vite. » Cependant, si mon père veut que je lui dise ce que c'était...
Non, mon Pierre, je ne veux pas l'entendre, et je veux que tu ne t'en souviennes jamais.
En ce cas, je vais l'oublier encore, reprit l'enfant. Et puis alors, cet homme-là a eu l'air de se fâcher parce que Marie lui disait qu'elle s'en irait.
Il lui a dit qu'il lui donnerait tout ce qu'elle voudrait, 100 francs. Et ma Marie s'est fâchée aussi. Alors il est venu contre elle, comme s'il voulait lui faire du mal. J'ai eu peur, et je me suis jetée contre Marie en criant. Alors cet homme-là a dit comme ça, « Qu'est-ce que c'est que ça? D'où sort cet enfant-là? Mettez-moi ça dehors !» Et il a levé son bâton pour me battre. Mais ma Marie l'a empêché, et elle lui a dit comme ça, « Nous causerons plus tard, monsieur. À présent, il faut que je conduise cet enfant-là à Fourche, et puis je reviendrai. » Et aussitôt qu'il a été sorti de la bergerie, ma Marie m'a dit comme ça, « Sauvons-nous, mon Pierre, allons-nous-en d'ici bien vite, car cet homme-là est méchant, et il ne nous ferait que du mal. » Alors nous avons passé derrière les granges, nous avons passé un petit pré, et nous avons été à Fourche pour te chercher. Mais tu n'y étais pas, et on n'a pas voulu nous laisser t'attendre. Et alors cet homme-là, qui était monté sur son cheval noir, est venu derrière nous, et nous nous sommes sauvés plus loin, et puis nous avons été nous cacher dans le bois. Et puis il y est venu aussi, et quand nous l'entendions venir, nous nous cachions. Et puis quand il avait passé, nous recommencions à courir pour nous en aller chez nous. Et puis enfin tu es venu, et tu nous as trouvés, et voilà comme tout ça est arrivé. N'est-ce pas, ma Marie, que je n'ai rien oublié ?
Non, mon Pierre, et ça est la vérité. À présent, Germain, vous rendrez témoignage pour moi, et vous direz à tout le monde de chez nous que si je n'ai pas pu rester là-bas, ce n'est pas faute de courage et d'envie de travailler.
Et toi, Marie, dit Germain, je te prierai de te demander à toi-même si, quand il s'agit de défendre une femme et de punir un insolent, un homme de 28 ans n'est pas trop vieux. Je voudrais un peu savoir si Bastien ou tout autre joli garçon, riche de 10 ans moins que moi, n'aurait pas été écrasé par cet homme-là, comme dit Petit Pierre. Qu'en penses-tu ?
Je pense, Germain, que vous m'avez rendu un grand service et que je vous en remercierai toute ma vie.
C'est là tout ?
Mon petit père, dit l'enfant, je n'ai pas pensé à dire à la petite Marie ce que je t'avais promis. Je n'ai pas eu le temps, mais je le lui dirai à la maison et je le dirai aussi à ma grand-mère.
Cette promesse de son enfant donna enfin à réfléchir à Germain. Il s'agissait maintenant de s'expliquer avec ses parents, et, en leur disant ses griefs contre la veuve Guérin, de ne pas leur dire quelles autres idées l'avaient disposé à tant de clairvoyance et de sévérité. Quand on est heureux et fier, le courage de faire accepter son bonheur aux autres paraît facile. Mais être rebuté d'un côté, blâmé de l'autre, ne fait pas une situation fort agréable. Heureusement, le petit Pierre dormait quand ils arrivèrent à la métairie, et Germain le déposa sans l'éveiller sur son lit. Puis il entra sur toutes les explications qu'il put donner. Le père Maurice, assis sur son escabeau à 3 pieds à l'entrée de la maison, l'écouta gravement, et, quoiqu'il fût mécontent du résultat de ce voyage, lorsque Germain, en racontant le système de coquetterie de la veuve, demanda à son beau-père s'il avait le temps d'aller les 52 dimanches de l'année faire sa cour, pour risquer d'être renvoyé au bout de l'an, le beau-père répondit, en inclinant la tête en signe d'adhésion, « Tu n'as pas tort, Germain, ça ne se pouvait pas. » Et ensuite, quand Germain raconta comme quoi il avait été forcé de ramener la petite Marie au plus vite pour la soustraire aux insultes, peut-être aux violences d'un indigne maître, le père Maurice approuva encore de la tête en disant, « Tu n'as pas eu tort, Germain, ça se devait. » Quand Germain eut achevé son récit et donné toutes ses raisons, le beau-père et la belle-mère firent simultanément un gros soupir de résignation en se regardant. Puis le chef de famille se leva en disant « Allons, que la volonté de Dieu soit faite. L'amitié ne se commande pas. » « Venez souper, Germain, » dit la belle-mère. « Il est malheureux que ça ne se soit pas mieux arrangé. Mais enfin, Dieu ne le voulait pas, à ce qu'il paraît. Il faudra voir ailleurs. »
« Oui, » ajouta le vieillard. « Comme dit ma femme, on verra ailleurs. »
Il n'y eut pas d'autre bruit à la maison. Et quand, le lendemain, le petit Pierre se leva avec les alouettes au point du jour, n'étant plus excité par les événements extraordinaires des jours précédents, il retomba dans l'apathie des petits paysans de son âge, oublia tout ce qui lui avait trotté par la tête, et ne songea plus qu'à jouer avec ses frères et à faire l'homme avec les bœufs et les chevaux. Germain essaya d'oublier aussi, en se replongeant dans le travail. Mais il devint si triste et si distrait que tout le monde le remarqua. Il ne parlait pas à la petite Marie, il ne la regardait même pas. Et pourtant, si on lui eût demandé dans quel pré elle était et par quel chemin elle avait passé, il n'était point d'heure du jour où il n'eût pu le dire s'il avait voulu répondre. Il n'avait pas osé demander à ses parents de la recueillir à la ferme pendant l'hiver, et pourtant, il savait bien qu'elle devait souffrir de la misère. Mais elle n'en souffrit pas.
et la mère Guillette ne put jamais comprendre comment sa petite provision de bois ne diminuait point, et comment son hangar se trouvait rempli le matin, lorsqu'elle l'avait laissé presque vide le soir. Il en fut de même du blé et des pommes de terre. Quelqu'un passait par la lucarne du grenier et vidait un sac sur le plancher, sans réveiller personne et sans laisser de traces. La vieille en fut à la fois inquiète et réjouie. Elle engagea sa fille à n'en point parler, disant que si on venait à savoir le miracle qui se faisait chez elle, on la tiendrait pour sorcière. Elle pensait bien que le diable s'en mêlait, mais elle n'était pas pressée de se brouiller avec lui en appelant les exorcismes du curé sur sa maison. Elle se disait qu'il serait temps, lorsque Satan viendrait lui demander son âme en retour de ses bienfaits. La petite Marie comprenait mieux la vérité, mais elle n'osait en parler à Germain, de peur de le voir revenir à son idée de mariage, et elle feignait avec lui de ne s'apercevoir de rien. Fin du chapitre 15. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 16 de La Mare au Diable. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezoa. La Mare au Diable de George Sand. Chapitre 16. La Mère Maurice. Un jour, la mère Maurice, se trouvant seule dans le verger avec Germain, lui dit d'un air d'amitié « Mon pauvre gendre, je crois que vous n'êtes pas bien. Vous ne mangez pas aussi bien qu'à l'ordinaire, vous ne riez plus, vous causez de moins en moins. Est-ce que quelqu'un de chez nous, ou nous-mêmes, sans le savoir et sans le vouloir, vous avons fait de la peine ?»« Non, ma mère, » répondit Germain. « Vous avez toujours été aussi bonne pour moi que la mère qui m'a mise au monde, et je serais un ingrat si je me plaignais de vous, ou de votre mari, ou de personne de la maison. En ce cas, mon enfant, c'est le chagrin de la mort de votre femme qui vous revient. Au lieu de s'en aller avec le temps, votre ennui empire, et il faut absolument faire ce que votre beau-père vous a dit fort sagement. Il faut vous remarier. Oui, ma mère, ce serait aussi mon idée. Mais les femmes que vous m'avez conseillé de rechercher ne me conviennent pas. Quand je les vois, au lieu d'oublier ma Catherine, j'y pense davantage. C'est qu'apparemment, Germain, nous n'avons pas su deviner votre goût. Il faut donc que vous nous aidiez, en nous disant la vérité. Sans doute il y a quelque part une femme qui est faite pour vous, car le bon Dieu ne fait personne sans lui réserver son bonheur dans une autre personne. Si donc vous savez où la prendre, cette femme qu'il vous faut, prenez-la, et qu'elle soit belle ou laide, jeune ou vieille, riche ou pauvre, nous sommes décidés, mon vieux et moi, à vous donner consentement. Car nous sommes fatigués de vous voir triste, et nous ne pouvons pas vivre tranquille si vous ne l'êtes point. Ma mère, vous êtes aussi bonne que le bon Dieu, et mon père pareillement, répondit Germain. Mais votre compassion ne peut pas porter remède à mes ennuis. La fille que je voudrais ne veut point de moi. C'est donc qu'elle est trop jeune? S'attacher à une jeunesse est déraison pour vous. Eh bien oui, bonne mère, j'ai cette folie de m'être attachée à une jeunesse, et je m'en blâme. Je fais mon possible pour n'y plus penser, mais que je travaille ou que je me repose, que je sois à la messe ou dans mon lit, avec mes enfants ou avec vous, j'y pense toujours. Je ne peux penser à autre chose. Alors c'est comme un sort qu'on vous a jeté, Germain? Il n'y a à ça qu'un remède. C'est que cette fille change d'idée et vous écoute. Il faudra donc que je m'en mêle et que je voie si c'est possible. Vous allez me dire où elle est et comment on l'appelle. Hélas, ma chère mère, je n'ose pas, dit Germain, parce que vous allez vous moquer de moi. Je ne me moquerai pas de vous, Germain, parce que vous êtes dans la peine, et que je ne veux pas vous y mettre davantage. Serait-ce point la Fanchette? Non, ma mère, ça ne l'est point. Ou la Rosette? Non. Dites donc, car je n'en finirai pas s'il faut que je nomme toutes les filles du pays. Germain baissa la tête et ne put se décider à répondre. Allons, dit la mère Maurice, je vous laisse tranquille pour aujourd'hui, Germain. Peut-être que demain vous serez plus confiante avec moi, ou bien que votre belle-sœur sera plus adroite à vous questionner. Et elle ramassa sa corbeille pour aller étendre son linge sur les buissons. Germain fit comme les enfants qui se décident quand ils voient qu'on ne s'occupera plus d'eux. Il suivit sa belle-mère et lui nomma enfin, en tremblant, la petite Marie à la Guillette. Grande fut la surprise de la mère Maurice. C'était la dernière à laquelle elle eut songé. Mais elle eut la délicatesse de ne point se récrier et de faire mentalement ses commentaires. Puis, voyant que son silence accablait Germain, elle lui tendit sa corbeille en lui disant « Alors, est-ce une raison pour ne point m'aider dans mon travail? Portez donc cette charge et venez parler avec moi.
Avez-vous bien réfléchi, Germain? Êtes-vous bien décidé?
Hélas, ma chère mère, ce n'est pas comme cela qu'il faut parler. Je serais décidé si je pouvais réussir, mais comme je ne serais pas écouté, je ne suis décidé qu'à m'en guérir si je peux.
Et si vous ne pouvez pas?
Toute chose a son terme, mère Maurice. Quand le cheval est trop chargé, il tombe, et quand le bœuf n'a rien à manger, il meurt.
C'est donc à dire que vous mourrez si vous ne réussissez point?
À Dieu ne plaise, Germain. Je n'aime pas qu'un homme comme vous dise de ces choses-là, parce que, quand il les dit, il les pense. Vous êtes d'un grand courage, et la faiblesse est dangereuse chez les gens forts.
Allons, prenez de l'espérance. Je ne conçois pas qu'une fille dans la misère, et à laquelle vous faites beaucoup d'honneur en la recherchant, puisse vous refuser.
C'est pourtant la vérité. Elle me refuse.
Et quelle raison vous en donne-t-elle?
Que vous lui avez toujours fait du bien, que sa famille doit beaucoup à la vôtre, et qu'elle ne veut point vous déplaire en me détournant d'un mariage riche.
Si elle dit cela, elle prouve de bons sentiments, et c'est honnête de sa part.
Mais en vous disant cela, Germain, elle ne vous guérit point, car elle vous dit sans doute qu'elle vous aime et qu'elle vous épouserait si nous le voulions.
Voilà le pire. Elle dit que son cœur n'est point porté vers moi.
Si elle dit ce qu'elle ne pense pas, pour mieux vous éloigner d'elle, c'est une enfant qui mérite que nous l'aimions et que nous passions par-dessus sa jeunesse à cause de sa grande raison.
Oui, dit Germain, frappé d'une espérance qu'il n'avait pas encore conçue.
Ça serait bien sage et bien comme il faut de sa part.
Mais si elle est si raisonnable, je crains bien que c'est à cause que je lui déplais.
Germain, dit la mère Maurice, vous allez me promettre de vous tenir tranquille pendant toute la semaine, de ne point vous tourmenter, de manger, de dormir et d'être gai comme autrefois.
Moi, je parlerai à mon vieux, et si je le fais consentir, vous saurez alors le vrai sentiment de la fille à votre endroit.
Germain promit, et la semaine se passa sans que le père Maurice lui dît un mot en particulier et parut se douter de rien. Le laboureur s'efforça de paraître tranquille, mais il était toujours plus pâle et plus tourmenté. Fin du chapitre 16. Cet enregistrement fait partie du domaine public.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.